Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du OFF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Ça vous agace pas, vous, cette lumière insolente qui nous illumine dans les rues du Festival OFF à Avignon, en cette cité qui se consacre au théâtre pendant le mois de juillet. La lumière en plein jour nous éblouit, et certains spectacles aussi d'ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui se jouent un peu plus tard le soir et qui portent bien leur nom, puisqu'on va parler du spectacle Nyctalope, pour lequel je reçois une demoiselle toute de noir vêtue. Ça pourrait être la fille cachée de Tim Burton et de Susie and the Banshees, mais finalement non, c'est une fille du coin et elle s'appelle Léa Guilec. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ici au titre de la compagnie Deraï Dance. C'est pas la première fois que vous venez dans les studios d'Osmose Radio. Et vous venez nous parler de ce spectacle, Nyctalope, qui se joue tous les soirs à 22h20 au théâtre Au Coin de la Lune. Enfin, tous les soirs, façon de parler, parce que moi-même, j'ai voulu venir voir votre spectacle ce week-end. Et finalement, j'ai eu aussi un joli spectacle, mais c'était pas du tout ce qui était prévu. Vous avez connu un début de festival un petit peu chaotique, en somme, puisque j'ai vu un très joli spectacle, mais c'était pas Nyctalope. C'était Enchanté.
Exactement.
Alors, pourquoi vous avez eu quelques inversions de programme comme ça ?
Alors, on a joué Nyctalope le 6 pour l'ouverture du festival OFF. Et par la suite, trois des actrices du projet, dont moi-même, ont dû aller jouer un autre spectacle à l'entrepôt pendant 4 soirs. C'est ce pourquoi Baptiste, donc la dernière personne du projet, a joué Enchanté.
D'accord, hein, qui est un projet un petit peu toujours dans le sein de la compagnie Deraï Dance, mais dont il est lui-même à l'origine. C'était un très joli spectacle d'ailleurs, j'ai pas regretté le temps que j'ai passé à le regarder là-bas. Et c'est un spectacle de marionnettes et de masques qui est aussi un des principes fondateurs de votre compagnie. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, la compagnie Deraï Dance a été créée en 2016 autour de vous, Léa, votre collègue Baptiste Silina, ainsi que deux autres personnes.
Oui, Colline Agar et Sarah Rieux.
Voilà, et donc vous êtes un quatuor au sein de cette association, enfin cette compagnie sous forme d'association, pour lequel vous avez déjà fait de beaux événements. Et pour ma part, je vous avais découvert en mars 2017 avec un carnaval un peu insolite que vous aviez créé au Tripostal, à deux pas du nouveau hôtel où nous trouvons actuellement. Et notamment vraiment un moment de l'année qui m'avait notamment surpris, c'était le Gore Naval, une expérience un peu immersive de carnaval macabre que vous aviez fait juste après Halloween, au mois de novembre. Comment vous était venue cette idée ?
Alors, les événements artistico-festifs, comme on les appelle, sont une branche très particulière.
Parlez près du micro, s'il vous plaît.
Je suis désolée. Donc, je reprends. Les événements artistico-festifs de la compagnie sont une branche assez insolite qu'on aime bien développer. Comme vous le dites, ce sont des expériences immersives qui durent entre 6 et 8 heures, généralement, qui ont lieu une à deux fois par an. Cette année, on va en faire qu'une. On a fait un carnaval en mai, donc on a repris ce concept-là. Et l'idée, c'est que le spectateur entre dans un univers créé de toutes pièces, qui est en extérieur, mais pour autant qui quand même fait entrer quelque part. Et on essaie de surprendre, on fait des numéros pour un spectateur, on fait venir des musiciens aussi, d'autres artistes plasticiens, etc. pour donner lieu quand même à un moment avant tout festif et populaire.
Parce que pour les événements dont on vient de parler, ce Gore Naval notamment, vous étiez quand même beaucoup plus que 4 dans l'organisation. Donc j'imagine que vous débauchez un peu, débauchez dans les deux sens du terme, les copains, etc. et que vous les maquillez pour les mettre un petit peu dans l'ambiance. Et comment s'est faite la rencontre avec vos collègues, notamment Baptiste, qui est à l'origine, je crois, de la création des masques et des marionnettes ?
Alors tout simplement au Conservatoire d'Avignon, parce que nous venons tous les quatre de la formation de l'acteur au Conservatoire d'Avignon.
D'accord.
On est sortis il y a 2 ans, Baptiste cette année, entre guillemets, mais il a commencé la compagnie avant. Et on s'est rencontrés plus particulièrement sur la création des Souffrances de Job de Hanok Levin, que je mettais en scène en fin de conservatoire.
C'était un exercice de fin d'études, c'est ça ?
Exactement, oui. Mais au final, on a créé une forme qui se rapprochait plus d'un spectacle, qu'on a joué plusieurs fois après et qu'on va reprendre à l'automne prochain.
Donc ça, bon, ce sera le projet qu'on évoquera en fin d'interview, mais pour le moment, on va se consacrer un petit peu à cette actualité du Festival Off, et plus particulièrement le spectacle Nyctalope, alors qui est joué depuis hier soir, si je comprends bien, à partir et jusqu'à la fin du festival, à 22h20 au théâtre au Coin de la Lune. C'est facile à trouver, c'est près du théâtre La Luna en fait, c'est une salle annexe du théâtre La Luna, tout près de la porte Thiers, c'est rue Buffon. Et c'est un spectacle... Alors on va dire, hein, c'est un mot un peu, une expression un peu facile, mais elle est quand même assez judicieuse. C'est un spectacle à l'ambiance onirique dans lequel finalement il n'y a pas peu ou prou d'histoire à proprement parler, il s'agit plutôt d'ambiance.
Exactement, c'est un spectacle qui se veut d'atmosphère, c'est avant tout du théâtre visuel puisqu'il n'y a pas de texte ou très peu, ou quand le texte est utilisé il est déformé et tordu dans tous les sens pour qu'il ne soit pas tout à fait audible et compréhensible. Et quand le spectateur vient, on le plonge directement sans ménagement dans l'univers qu'on a voulu créer, qui donc est onirique, mais qui penche quand même plus du côté du cauchemar et du côté sombre des rêves, avec, comme on le dit dans un discours au départ, ses apparentes incohérences, son parfum brumeux, ses répétitions, sa fièvre et sa mélancolie.
Voilà, parce que c'est un petit peu le postulat de votre spectacle, c'est nous plonger dans l'ambiance des cauchemars. Alors ça fait un petit peu froid dans le dos dit comme ça, mais et de fait, ça a beau être un spectacle de marionnettes notamment, c'est pas un spectacle à proprement parler pour les enfants. D'ailleurs, vous mettez sur votre dossier de presse que c'est accessible aux enfants à partir de 10 ans, je vous trouve bien optimiste, parce que par rapport aux ambiances qui sont évoquées et dont j'ai pu me faire une idée, même des enfants de 10 ans peuvent être impressionnés par les effets de lumière, par l'ambiance générale.
Les enfants peuvent être impressionnés, mais généralement, ce qu'on a remarqué sur notre dernière création, c'est qu'ils le sont moins que les adultes. Tiens, parce qu'ils ont certains codes, certains filtres, certains symboles qu'ils ne maîtrisent pas encore. Et du coup, ils se sentent plus proches de ce qui se passe et ils détectent beaucoup plus l'aspect poétique que l'aspect acide qu'il peut y avoir par moment.
D'accord, donc une inversion des valeurs en quelque sorte, grâce au petit bout de chou, bien joué. Et de toute manière, vous aurez peut-être l'occasion de nous parler des retours que vous avez eus, même si pour le moment, avec si peu de représentations, vous n'en avez pas forcément eu beaucoup. Alors, un spectacle qui est basé sur le côté sombre de rêve, comme disait tout à l'heure, la nuit étant aussi le domaine de l'obscurité, le côté sombre de l'obscurité, tout ça me paraît d'une noirceur immense, et ce pourquoi aussi vous parlez dans votre dossier de presse d'êtres de lumière qui se disent distingue dans sur scène, notamment pendant le spectacle. Alors, être de lumière, on a plutôt l'habitude d'entendre les couillons New Age utiliser cette expression pour, comme un petit peu comme ils parlent des enfants indigo, etc. Enfin, c'est un de leurs concepts à la gomme pour se distinguer du vulgaire et du malvenu. Et être de lumière, par contre, c'est vrai que les effets de lumière comptent beaucoup sur scène, évidemment, pour évoquer les ambiances dont vous nous parliez à l'instant. Je suppose que c'est dans cet ordre d'idées que vous parlez de ça?
Eh bien, pas forcément. On distingue plusieurs types d'atmosphères au sein du spectacle. Mmh. On parle souvent dans un cauchemar, on est soit actif, soit passif de ce qui nous arrive. Quand les personnages sont passifs, ils sont représentés comme des personnages beaucoup plus proches du public, beaucoup plus touchants, personnifiés. Et c'est d'eux qu'on parle quand on parle d'êtres de lumière, parce que ce sont des personnages qui cherchent à retrouver la lumière au sein de la noirceur dans laquelle ils évoluent. Et on a notamment un personnage qui est le personnage de Gloria, qui est une chanteuse et qui, à chaque fois qu'elle arrive, sort d'une espèce de castellet avec des guirlandes justement de lumière, qui à un moment va chanter devant le public avec un micro qui s'apparente plus à une ampoule. Et ce sont ces personnages-là qui portent la lumière entre guillemets en eux.
D'accord. Donc un petit peu comme ces poissons des abysses qui génèrent
exactement
leur propre lumière avec des processus chimiques fluorescents.
C'est ça.
Pour attirer leur proie, en l'occurrence leur proie, c'est le public, c'est nous. Vous me faites encore plus peur à l'issue de l'interview qu'avant. Alors effectivement, comme vous le disiez, il n'y a pas réellement d'histoire. Néanmoins, il y a quand même ce duo entre Gloria et le jeune homme sans nom qui sont un petit peu au centre dans l'histoire. À proprement parler, mais il n'y a pas réellement d'histoire à proprement parler, mais la relation elle-même est au centre du spectacle. Spectacle qui est découpé en plusieurs parties et plus encore différents tableaux, ce qui va un petit peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. C'est pas vraiment du théâtre, c'est plus de la danse et une représentation de marionnettes. Alors, ça se découpe un petit peu comme un spectacle de danse si on parle de tableau.
Oui, c'est possible, mais on peut aussi parler de tableau dans les écritures contemporaines théâtrales. Mmh. Nyctalop, c'est une écriture contemporaine, puisqu'on l'a écrite de A à Z. Même si on n'a pas écrit de texte, on a écrit le spectacle, la partition, qui est quand même extrêmement précise. Et à l'intérieur de cette partition, qui pour nous est théâtrale, on a du mouvement. On a de la marionnette, on a du masque, on a beaucoup d'éléments en fait qui viennent et qui s'entrechoquent, mais dans un spectacle qui est quand même éminemment théâtral. Et pour rebondir sur ce que vous disiez concernant le fait qu'il n'y a pas d'histoire à proprement parler, c'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on... pas qu'on défend du tout, mais qui est là, qui est réel. Et on nous pose souvent la question au début, à la fin, mais... j'ai pas vraiment compris, j'ai pas saisi le sens. Et en fait, c'est tout à fait normal parce que le fil et la cohérence du spectacle ne se trouvent pas dans un sens qu'on essaie d'expliquer ou qui est narratif, mais ils se trouvent dans une sensation profonde et dans le lien qui est esthétique et qui est aussi inhérent à l'énergie des acteurs.
Mais il y a des gens qui ont du mal à se laisser aller, qui ont tellement l'habitude d'être cadrés dans des histoires écrites au cordeau. C'est pas forcément facile et ça n'enlève en rien soit à leur capacité à ressentir ce que vous avez voulu représenter, ni même à votre mise en scène à vous. Alors venons-en, puisque vous voulez en parler, venons-en à la création des masques et des marionnettes qui sont un peu l'œuvre exclusive de votre collègue Baptiste qui a créé tout ça. Alors d'où lui vient l'inspiration pour créer ces masques dont certains m'évoquent les grotesques du XVIIe siècle à Venise notamment. Grotesque dans le sens, attention, c'est pas péjoratif, c'est grotesque dans le sens qu'on l'utilisait à l'époque,
savoir
des masques de carnaval qui évoquaient des figures un petit peu ridicules ou parfois même infernales.
Alors, Baptiste construit des marionnettes depuis qu'il est tout petit. Il est tombé dans la marmite, on va dire, et depuis, il est autodidacte là-dedans et il progresse au fur et à mesure. Il s'auto-forme au fur et à mesure des projets.
Il s'auto-déforme, si je peux me permettre.
Il s'auto-déforme également. Voilà, après, d'où lui vient l'inspiration, sans doute de tous ses visionnages de films, il est très cinéphile, et aussi de son inspiration profonde, puisque par exemple, pour Nyctalop, on est de base dans l'univers du cauchemar, et il se trouve que Baptiste cauchemarde beaucoup, et qu'il a une mémoire extrêmement précise de ce dont il rêve. Il est capable au réveil de parler pendant des heures de ce qu'il a vu, vécu, les couleurs, les musiques, les sensations. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est une source assez grande d'inspiration pour lui, notamment pour Nyctalop.
Donc, s'il y a des parents qui nous écoutent, faites attention quand vous laissez vos enfants faire du macramé. Et puis après, soyez encore plus vigilants s'ils commencent à s'intéresser à Carl Jung et à sa psychanalyse des rêves. Vous voyez, ça donne des projets artistiques tout à fait incongrus, mais qu'on aime à découvrir. Alors ça, effectivement, ça me surprend. Utiliser des cauchemars comme matière créative, c'est pas forcément une nouveauté, on l'a déjà vu. Mais c'est tout de même assez inattendu. Bien que Michel Gondry ait parlé de la science des rêves, il y a quelques années, mais c'est un autre débat. Toujours est-il qu'au niveau de la scénographie, de la mise en scène, pour mettre en valeur, j'imagine, le travail esthétique fait sur les masques et les marionnettes, vous avez choisi une mise en scène assez sobre qui met en valeur ces personnages actifs, passifs, que vous citiez tout à l'heure, les êtres de lumière, par rapport à la mise en lumière du plateau. Mais vous utilisez aussi certains objets, là encore insolites, qui ont leur importance tout de même. C'est par exemple la malle.
Tout à fait. Alors peut-être que les personnes qui nous ont vus parader dans la rue nous ont vus avec une drôle de boîte. Mmh. C'est la réplique en miniature de la grosse malle que nous avons sur scène dans Nyctalop. La malle, ça se concrétise par une espèce de grand coffre noir duquel sortent tout un tas de personnages, en re-rentrent d'autres. On la déplace, on la change d'espace... Elle devient tantôt un appui de jeu, tantôt réellement une porte vers un autre espace. Et c'est pour nous vraiment un appui important et une source de jeu infini. On pourrait continuer de créer vraiment pendant des années avec juste cet objet. Et on a un deuxième élément de scénographie qui fait écho, qui fait comme une mise en abîme de cette malle et qui apprivoise aussi le mystère qu'on aime créer avec Nyctalop. C'est une espèce de double rideau de fond qui s'ouvre assez régulièrement pendant le spectacle pour laisser apparaître une sorte de mini castellet dont je parlais tout à l'heure, avec les guirlandes à l'intérieur. Et il y a un double niveau dans ce faux fond donc duquel on fait sortir des marionnettes. On peut se cacher, rentrer, faire disparaître et apparaître des objets, parce qu'on travaille beaucoup sur la métamorphose aussi. Et la métamorphose est drôlement aidée par ces deux objets scénographiques.
Mais est-ce que ce dernier donne aussi un effet de perspective, pour revenir sur les idées de premier plan et arrière-plan par rapport aux lumières que vous citiez tout à l'heure?
Oui, tout à fait. Tout à fait, même sans parler vraiment de perspective, parce qu'il faudrait avoir une très grande salle pour ça, ça donne quand même un effet de différents espaces, différents lieux, puisque dès qu'on est tout au fond, on utilise aussi la malle pour monter dessus et apparaître comme des géants en fait, derrière le faux fond.
D'accord. Un rideau, une boîte de Pandore, quelques lumières, et on peut en faire des choses, ainsi qu'une ampoule qui fait office de micro. Toujours failli y penser. Et tiens, en parlant de micro, on va parler aussi de musique. La musique est un aspect important de cette création. Et pour ma part, ce que j'en ai entendu m'a évoqué un peu un Jan Tiersen qui aurait fait la bande originale d'un film de Tim Burton. Pour résumer.
Oui et non. En fait, vous parlez de la musique que vous avez entendue sur le teaser, c'est ça?
Exactement.
Oui. Alors, c'est un extrait, en effet, des musiques qui sont dans le spectacle. Tout a été composé par Baptiste et enregistré avec des musiciens qu'on connaît. Il y a deux aspects principaux dans la bande originale. Il y a des morceaux qui font penser aux ambiances balkaniques, aux fanfares des Balkans. Donc un aspect très, très joyeux, très populaire, qui tranche un petit peu avec l'idée qu'on peut se faire du spectacle.
Une impression musicale, enfin un univers musical qu'on retrouvait déjà dans Enchanté d'ailleurs.
Oui, tout
avec
à fait.
Avec ce violon un peu klezmer parfois.
Oui, oui, tout à fait, exactement. Et du coup, ça c'est quelque chose qui accompagne aussi le côté burlesque et grotesque de la compagnie qu'on a quand même gardé dans Nyctalope. C'est ça aussi qui peut mettre des frissons par moment, de passer de quelque chose d'extrêmement sombre à un grotesque qui sort vraiment de nulle part ou d'une boîte. Et il y a un autre aspect dans la bande originale qui est le travail des ambiances sonores. On a déformé beaucoup de musique, beaucoup de voix, on les a mises à l'envers, on a fait beaucoup d'expériences par rapport à ça pour donner des moments d'épaisseur de son assez étranges, injaugeables et qui accompagnent le mystère de Nyctalope.
D'accord, mais vous savez que c'est considéré comme un procédé satanique hein, de jouer les voix à l'envers. Ah oui.
D'accord.
quoi qu'il en soit, eh bien, c'est une création totale. Alors pour ceux qui veulent se faire une idée avant d'aller voir de spectacle de votre univers, je précise que près de la place du Change, dans les petites rues piétonnes d'Avignon, entre un magasin de jouets et une librairie, on trouve une vitrine, une jolie vitrine dans laquelle vous présentez vos créations, vos marionnettes, vos créations plastiques. Comment s'est faite la mise en place de cette vitrine? C'est relativement récent, je crois.
Ah oui, tout à fait. On l'a juste le temps du festival, donc c'est 3 rues de la Rappe exactement. Et ce qu'on expose dedans, c'est le spectacle Chimera, qu'on a joué l'année dernière au festival, qui est un spectacle de marionnettes à fil. Ce projet s'est fait en co-réalisation avec La Ruche, qui est l'association des commerçants de l'Intramuros, entre autres.
D'accord.
Et avec le soutien de plusieurs personnes. La maison Jean Villard nous a aussi accompagnés en nous mettant à disposition des mannequins. Voilà, j'en dis pas plus. Et donc voilà, pendant tout le festival, le spectacle Chimera est exposé là-bas. Et c'est vrai que ça peut donner un aperçu de l'esthétique de la compagnie. On a aussi une autre exposition, tant que j'y pense, qui est beaucoup plus petite, qui se trouve à l'ancien Popotel, qui maintenant s'appelle le O36, rue de la République.
C'est l'auberge de jeunesse qui se trouve.
Exactement.
Rue de la République.
Oui, ouais, c'est ça. Et là, on a quelques reliques du carnaval 2018.
D'accord. C'est vrai que vous faites bien de le rappeler. Vous étiez intervenu au Festival Off l'an dernier avec ce spectacle Chimera, que j'avais omis de préciser tout à l'heure. Voilà, écoutez, merci Léa d'être venue nous parler de ce spectacle. Je le rappelle, Nyctalope, la compagnie d'Eraille Dance, avec des marionnettes, avec des masques et des acteurs derrière qui créent ces ambiances étranges. C'est au théâtre au coin de la Lune, tous les soirs à 22h20. Et quelles ont été les premières impressions de spectateurs qui vous ont été communiquer jusqu'à présent?
Alors c'est très drôle parce qu'on a des réactions très très différentes. Vu que ça fait appel à l'interprétation du public, la plupart des gens sont déstabilisés. et ont besoin d'échanges et de parler à la fin pour essayer de se remettre les idées en place, d'exprimer ce qu'eux ont vécu à l'intérieur de ça. Mais généralement, c'est un déclencheur d'imagination. Parce que nous-mêmes, on est surpris par les retours qu'on a et la capacité de chaque personne à projeter des choses tout à fait énormes sur des scènes simples qu'on a pu créer.
C'est un petit peu un catalyseur pour le public, en quelque sorte, de leurs propres angoisses. Je me suis dit, en abordant un tel sujet, ils cherchent un petit peu les ennuis parce qu'il y a des gens qui vont se taper des crises d'angoisse dans le public.
A priori,
ce ne sera pas le cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et de toute manière, ce sont des ambiances oniriques et qui jouent de l'obscurité dans ce spectacle, Nyctalop, qui, je le rappelle, signifie « celui qui voit dans la nuit », encore que la définition n'ait pas toujours été très claire dans les anciennes versions du dictionnaire de langue française. Mais effectivement, ça fait nous, en tout cas, on voit dans votre obscurité un petit peu des choses étranges et surnaturelles et parfois même un petit peu nos propres angoisses, qui vaut donc le coup d'aller voir à 22h20 au théâtre au coin de la Lune. Merci Léa d'être venue nous
Merci.
Parler de ce spectacle et de la compagnie d'Erai Dance. Pour nous donner une petite idée sonore, en quelque sorte, du spectacle Nyctalop que je vous invite à aller voir en ce Festival Off 2018, je vous propose d'écouter quelques impressions sonores de ce dernier spectacle.
Merci.